que se vayan todos. Ciao.
Bonjour. Si Malakoff Médéric possède près de 14% des actions du groupe Korian, cela veut bien dire que leur gris est une affaire qui marche. Ma maman est restée 12 ans dans un autre groupe coté en bourse, lui aussi. Pour me rendre compte du travail du personnel, je l'ai lavée et nourrie, même lorsqu'elle était devenue grabataire. J'avais aussi pris l'habitude de veiller sur les autres, quand j'en avais le temps, évidemment. Le fait d'avoir relevé les manches me permettait de pouvoir mettre mon grain de sel auprès de la direction. Maintenant que je suis à la retraite, ma plus grande hantise, c'est de finir ma vie dans ce genre de structure où on entasse, on les cache parce que la dégradation fait peur. Voilà ce que je voulais vous dire suite à votre émission. Merci.
Oui, allô, bonjour. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe de la Basse JSU pour l'émission d'aujourd'hui. Émission que j'ai trouvée absolument d'actualité. J'ai eu l'occasion de travailler cet été au centre médical long séjour du CHU de Bordeaux à Xavier Nozan, exactement. Donc je suis pas du tout aide-soignant, je suis étudiant, on m'a mis là comme ça. Je me suis retrouvé à travailler de nuit et pour donc il y avait deux infirmières et trois aides-soignants pour environ 120 patients. 120 patients, dont beaucoup étaient atteints de la maladie d'Alzheimer, etc., enfin, ou étaient très dépendants. Les problèmes que vous avez soulevés dans cette émission concernent aussi bien l'hôpital public que des groupes privés comme ceux que vous parlez, puisque les patients de là où j'ai travaillé payaient eux aussi 2000 euros par mois, alors qu'on est dans l'hôpital public et qu'ils avaient cotisé à la Sécu lorsqu'ils étaient en activité. C'était Adrien de Bègle.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes tous conviés ce soir, mercredi 3 novembre, à 18h30, au Repère d'Abbeville. Nous invitons Nicolas Séné pour son livre « Derrière l'écran de la révolution sociale », le thème étant la précarisation des cadres. Au café Le Crofter, à Abbeville, à 18h30. Venez nombreux. À bientôt.
Au sujet des maisons de retraite médicalisées ou EHPAD, je peux donner quelques informations utiles. Concernant les tarifs, les moins chers à qualité égale sont celles du secteur public, communal ou hospitalier, ou du secteur associatif, le plus souvent mutualiste. Dans le secteur privé à but lucratif, la qualité peut exister, mais alors à des prix exorbitants, puisque l'EHPAD doit dégager de la valeur pour les actionnaires familiaux ou boursiers. Concernant la taille idéale d'un EHPAD, ni trop petit, ni trop grand. C'est un établissement de 60 résidents avec un cantou de 12 résidents désorientés. Mais les grands groupes privés ont imposé aux autorités de tutelle la norme de 80 résidents comme nombre minimal au-dessous duquel une maison de retraite n'est pas rentable pour eux. Et ensuite, au fil des ans, ils demandent des autorisations d'extension. La saison dorée de Korian compte ainsi 108 lits, dont 36 pour résidents désorientés. Autre info, pourquoi cette impression assez partagée qu'un EHPAD ressemble à un mouroir? D'abord, parce qu'on y entre le plus tard possible, autour de 85 ans, pour des raisons financières. Le salaire médian actuel est de 1250 euros net par mois. Depuis la réforme Balladur des retraites de 1993, le taux de remplacement est tombé à 65%, soit une retraite médiane de 812 euros net mensuel. Or, un lit en EHPAD est facturé entre 1800 et 3500 euros par mois. Et quand on y entre, le degré de dépendance est déjà très élevé. Et la durée moyenne de vie en EHPAD est d'environ 3 ans. Un établissement qui héberge beaucoup de résidents lourdement dépendants reçoit plus de subventions, mais le personnel soignant a un travail beaucoup plus pénible et en général à effectif constant. Une aide-soignante ne devrait pas faire plus de 9 à 10 toilettes par matinée.
Eh bien voilà, je suis Gilbert, dans une maison de retraite qui n'est pas au groupe Korian, qui est parti en conseil général à l'aide sociale, bien sûr, donc traditionnelle. Ben oui, c'est bien ce que je pensais. Ici, on ne discute de rien. Le personnel ne discute pas avec les résidents. Hein. On ne discute pas, on n'a pas le temps de discuter. Voilà, on ne parle de rien du tout, on se connaît très mal. La mauvaise humeur ambiante. Moi, je suis non-voyant et je me trouve avec des gens, évidemment, très âgés. Je n'ai pas de contact concret avec les personnes parce qu'elles sont très âgées. Je suis très isolé là-dedans, très isolé. Et voilà, je sais pas comment faire en fait pour en sortir. Je sais pas où. Alors, mais c'est vrai que c'est des personnes qui ne, le personnel ne discute pas. On ne discute de rien. On ne discute de rien avec elles. Il n'y a pas de problème. Elles n'ont pas le temps. Donc voilà. On ne peut pas parler de quoi que ce soit. Faut pas aborder des sujets très importants. Ça risque pas, quoi. Eh bien, c'était Gilbert de Steinberg, 59, 68 ans, non-voyant. Voilà, 06 37 28 34 36. Merci, Daniel.
Voilà, alors vous avez noté le numéro de Gilbert. 06 37 28 34 36, on l'a rappelé pour savoir s'il était d'accord pour qu'on vous donne son numéro. Il est d'accord, donc notez-le, 06 37 28 34 36. Et j'ai l'impression qu'un petit coup de fil de la part des AMG lui ferait bien plaisir. C'était un témoignage parmi d'autres, beaucoup, beaucoup de témoignages. Suite au reportage d'hier sur cette grève très particulière dans une maison de retraite de Lyon, liée au groupe Korian, qui s'appelle la Saison Dorée, cette maison de retraite, les personnels soignants, soignantes, se sont mis en grève. Cette grève est maintenant terminée. On va vivre cette deuxième partie de cette grève très particulière. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça se passe dans une entreprise privée, donc c'est toujours difficile. Et puis ça se passe avec dans un boulot particulier. Gilbert vient d'en témoigner, celui de l'assistance aux personnes en difficulté, vulnérables ou dépendantes. Mais pourtant, les personnels se sont mis en grève à cause de leurs conditions de travail, et ces conditions de travail ont évidemment une incidence sur les personnes en question. On a reçu beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de témoignages que vous retrouverez à la page France Inter, sur le site France Inter, à la page là-bas si j'y suis. Très intéressant témoignage de la part de résidents, de la part de familles de résidents, de la part de personnel, de la part même d'anciens directeurs ou directrices de ce genre de maison, qui vont tous vers le même constat. Et il faut absolument qu'on commence à faire la différence entre un être humain et un grille-pain. Si vous voulez, voilà, un grille-pain, ça peut se fabriquer de façon industrielle, ça peut se poser là ou là, ou on peut le foutre par terre, on peut le mettre aux ordures, etc. C'est la différence avec un être humain. Un être humain, ça ne se traite pas tout à fait de la même façon. Or, il semble qu'il y ait une confusion, qu'on aille de plus en plus vers une confusion entre les deux. Et ce qui ressortait au fond de l'émission d'hier, c'est une confusion manifeste entre les deux. On va voir là, si aujourd'hui les choses s'améliorent dans cette deuxième partie de ce reportage de Charlotte Perry. En tout cas, auparavant, voici encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici le repère de la base. J'y suis à Tonquédec, dans les Côtes d'Armor, dans le Trégor, près de Lannion. Rappeler, rafraîchir les mémoires pour les gens du coin et informer ceux qui ne seraient pas encore au courant. Demain soir, soirée exceptionnelle dans le cadre du repère, puisque nous recevons Bernard Friot qui va nous parler de l'enjeu des retraites, en s'appuyant évidemment sur son dernier livre. La conférence débat, ça aura lieu à partir de 20h30, donc au temps des cerises, route de Bullien D31 en Tonquédec. Possibilité de se restaurer avant le débat pour les gens qui le désirent. Salut.
Salut Daniel, bonjour à tous les AMG. Entre manifs, points de rencontre, etc. et luttes diverses, on va quand même se réunir ce jeudi 4 novembre au repère de Monchy-Breton, dans le Pas-de-Calais, c'est toujours à côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, à partir de 18h30, au café chez Tartous et compagnie. La lutte continue ici dans le Pas-de-Calais.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Le repère d'Aix-les-Milles reçoit André Jacolbec, économiste citoyen, au Café de France à 19h ce jeudi 4 novembre. Il nous décryptera les arcanes des mécanismes, pourtant simples à la base, de l'argent-dette, manière de transférer le peu de richesse des pauvres et des classes moyennes vers ceux qui sont déjà les plus riches.
Le repère de Bègle au poulailler, place du 14 juillet, se réunira ce soir, mercredi à 19h, sur le thème « Les combats ordinaires ». Mathilde, 86 ans, vient nous raconter son combat ordinaire. Manif à pied dans Bordeaux, elle vient de lire qu'ils s'en aillent tous, de Mélenchon, et de s'abonner au journal Fakir. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps, dit notre président de la République. La réponse de Mathilde est celle-ci, on vit plus longtemps, donc on milite plus longtemps. À ce soir 19h pour échanger sur nos combats ordinaires. À bientôt.
Bonjour. On est résident, oui.
Et vous savez le personnel qui est en grève, c'est ça?
Moi, ce que j'en pense, eh bien, j'en pense que je vis au jour le jour.
Pourquoi il y a une grève? Pourquoi les familles ont réclamé? Pourquoi nous réclamons du personnel? C'est pour justement que ces personnes âgées puissent avoir une vie décente.
Je fais mon possible pour vivre. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Non, j'ai pas ce qu'il faut.
Et il faut surveiller, ça se passe la nuit, ça se passe le jour. On peut pas être à la fois au four et au moulin. Surveiller, donner à manger, passer avec les goûters, faire des changes. On peut pas.
Même on nous a même dit de chronométrer. Hein. On nous a passé un chronomètre. Oui. On nous a dit de chronométrer le temps de toilette. Là je trouve là c'est grave. On travaille avec des humains, donc on n'est pas à l'usine.
Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, moi. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Faites-les partir les autres.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bessie, j'y suis avec Charlotte Perry, la saison dorée.
Flight number 2, arriving from New York.
Me présente, je suis Belmoum Elada, déléguée du personnel et représentante du syndicat CFDT. Alors voilà, nous sommes salariés de la Saison Dorée, qui est une maison de retraite privée et qui appartient au groupe Korian. Nous sommes en grève à peu près depuis 12 jours et aucune négociation n'a abouti à quelque chose.
Sans vouloir faire l'avocat du diable, il y a des personnes âgées à l'intérieur. Vous n'avez pas un peu l'impression de les abandonner?
Bah, les abandonner, on se bat pour eux également, puisqu'on demande des postes justement pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Nous sommes sous-effectifs et pour le bien-être du résident, on se bat pour eux. Parce que les conditions sont très difficiles. Psychologiquement, on ne peut plus, physiquement, on ne peut plus. Et c'est quand même un danger pour ces personnes-là.
On est un aide-soignant en fait, dans un étage pour 12 résidents.
Donc un aide-soignant doit s'occuper de 12 résidents?
Oui, et c'est des services fermés, donc ce qui a beaucoup de démence, et la prise en charge elle est lourde. Donc là on est confronté à nous-mêmes, on est seul. C'est pour ça qu'on demande des postes supplémentaires, mais on n'en peut plus.
Nous sommes exactement aussi en relation avec Vinatier. Nous avons des
patients. Vinatier?
Vinatier, c'est un hôpital psychiatrique. Et nous accueillons quand même des personnes qui ont des troubles psychiatriques assez graves.
Ah, c'est mélangé les gens qui sont...
On en a quelques-uns, oui. Mais nous devons les accompagner et c'est très difficile. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas gérer.
Il faudrait combien de postes en plus pour pouvoir mieux gérer les...
Pour mieux gérer, il nous faudrait au moins, on va dire, 5 postes d'aide-soignante, plus un ou deux postes d'infirmier. Mais jusqu'à présent, on n'a rien. Alors maintenant, on demande un peu moins, on essaye de négocier, mais toujours rien. Ils attendent la réponse de la DAS, parce que sachez que la DAS, l'ARS, subventionne le personnel soignant, infirmier et aide-soignant. Elle subventionne à 30% les ASH, agents de service, et le Conseil général subventionne le reste, 70%. C'est le Conseil général qui subventionne les ASH. Donc, le groupe Korian ne paye pas les salariés. Paye juste le cadre, les cadres et l'administration et tout ce qu'il faut pour gérer le fonctionnement de l'établissement.
l'entretien de la structure.
Donc à la fin, on revient au point de départ. Et qui, dans ce conflit, reste toujours le roi? C'est le groupe Korian. Pour culpabiliser le personnel, une directrice du groupe Korian a poussé une dame en fauteuil roulant à l'extérieur de l'établissement, en chemise de nuit, avec une protection souillée, pour culpabiliser le personnel soignant, voulant dire, regardez dans quel état sont les résidents et que vous les laissez tomber. Alors notre regard s'est jeté sur cette dame et on a été écœurés. Écœurés à quel point on pouvait aller pour nous déstabiliser, pour nous culpabiliser. Ni nous ont demandé son avis, ni rien.
C'est honteux.
C'est honteux. Au lieu d'avoir un arrangement, négocier avec nous, à une bonne entente, ils préfèrent rester dans ce conflit, mettre en danger les résidents et nous laisser faire grève et ne rien avoir. Voilà, à la fin.
Et pourtant, la presse est pleine d'articles prometteurs, alléchants, du genre « les maisons de retraite, ça peut rapporter gros ». Des tarifs d'hôtels 4 étoiles, les subventions en pagaille et un marché gagné d'avance. Jadis, tenu par des âmes charitables, le créneau des résidences pour seniors est devenu l'un des plus rentables de ce début de siècle. Pas étonnant que les investisseurs privés se précipitent sur ce marché, celui du papy-boom et celui de l'or gris. Alors voilà comment ça se passe sur le terrain. Vous venez d'entendre quelques échos. Ça se passe pas si bien que ça, puisqu'on chronomètre les gestes des soignants concernant la toilette des personnes âgées. On nous l'a dit hier. On mesure le nombre de biscottes, la taille des petits paquets de beurre et surtout une insuffisance énorme de personnel pour ces personnes, ces résidents vulnérables. Pourtant, le temps de vie s'allonge. Pourtant, nous dit-on au niveau présidentielle, dans la bouche même du président de la République, on fait des gros efforts concernant le grand âge, les aînés, les seniors et ceux qui sont atteints d'Alzheimer sont nos privilégiés, sont vraiment les chantiers, les défis auxquels nous devons nous confronter. Or, concernant ces groupes privés, c'est la prospérité, c'est le développement et de nombreux groupes se développent et peu à peu prennent la part du domaine public dans ce domaine. Ils le prennent sous les formes de subventions, ce qu'il faut bien appeler des subventions et des soutiens du gouvernement et des pouvoirs publics à travers le département, à travers la sécurité sociale et à travers l'État qui finance directement l'aide sociale. Ainsi, on l'a dit hier, mais il faut le répéter, pas loin de la moitié des chiffres d'affaires de ces entreprises provient directement des impôts et des cotisations payés par nous autres, les Français. C'est pas évident à comprendre ça, ce système de siphonnage et de vases communicants. Évidemment que, comme toute entreprise de ce type, avec des actionnaires extrêmement exigeants et alléchés, eh bien, il s'agit de rentabiliser au maximum. Et effectivement, je le disais d'une manière provocante pour commencer, on arrive à la confusion entre un être humain, un corps humain, un objet, une marchandise et un produit. C'est la même logique, on a beau habiller tout cela de formules jolies du genre la saison dorée, et être certain que les personnels qui travaillent là-dedans sont dévoués et même tout à fait concernés, y compris d'ailleurs les directions. Il ne s'agit pas d'opposer nécessairement, comme dans ce conflit, les directions et les personnels. On est tous, et les familles, les résidents, les personnels, et même l'encadrement dans ce même bateau du profit à tout prix, y compris la vie. C'est quelque chose de très très grave parce que là, il y a vraiment une situation de déshumanisation. On est là dans un cas de déshumanisation, de perte totalement des valeurs, du sens commun le plus élémentaire. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, la saison dorée.
Adolescents paumés qui saignent les vieillards pour de la menue monnaie, quelques pauvres liards donnent leur donc au lieu d'un coup de yatagan, le petit coup du bon Dieu. Un dernier bon moment, fais une pipe à pépé avant qu'il ne la casse. Une petite langue à mémé avant qu'elle ne trépasse. Elle pousse pas des cris d'horreur, d'indignation. Ils sont comme tous les vieux, ils ont cul sous le chignon. Pam, pam. Infirmière dévouée au fond de ton hôpital, au lieu du comprimé, du calmant du bocal, au lieu du thermomètre, cette épée de Damoclès, donne donc à l'ancêtre une ultime caresse, fais une pipe à pépé, une petite langue à mémé, elle ne poussait pas les cris, ils sont comme toi les vieux. Adultes répugnants qui cloués au fauteuil, grand-papa, grand-maman, comme dans un cercueil, au lieu de vous cacher pour d'intimes prouesses, allez donc les chercher, ça leur fera une jeunesse. Faites une pipe à pépé avant qu'ils ne la cassent, une petite langue à mémé avant qu'elle ne trépasse. Elle ne pousse pas les cris d'horreur, d'indignation. Ils sont comme tous les vieux, ils ont cul sous le chignon. Une petite langue à mémé, et ne poussez pas les cris, ils sont comme vous les vieux. Ah. La vieillesse, mes frères, c'est pas le paradis, ce serait plutôt l'enfer de plaisirs interdits. Car à 80 ans, Victor Hugo l'a dit, on cache ses sentiments dessous ses bigoudis, faisant une pipe à pépé, une petite langue à mémé, et ne poussons pas les cris, ils sont comme les vieux.
Voilà, je vous présente Laurence.
Bonjour, c'est vous tout à l'heure. Oui. Bonjour.
Voilà. Voilà, donc Laurence vous accompagne si vous êtes d'accord au niveau des étages.
Je ne sais pas si madame, c'est l'artiste qui vous a fait la présentation de l'établissement. C'est sur 5 étages.
Avec 2 étages de Cantou qui sont des services d'unité de vie protégée qui accueillent des personnes âgées qui ont des troubles de démence avec parfois des troubles psychiatriques.
D'accord.
Hein, puisque voilà, on a cette population sur les 2 Cantou.
D'accord. Et du coup, dans les zones protégées comme ça, il y a combien de personnes ?
Alors, au premier étage, il y a 24 résidents. Au cinquième étage, 12 résidents. Il y a 3 personnes le matin sur le premier étage, 2 personnes l'après-midi. Et sur le cinquième étage, il y a une aide-soignante en poste sur 7h-20h et un renfort sur 10h-20h. Voilà, en temps normal, ouais. Donc là, vous avez 2 familles du cinquième étage.
Oui, du Cantou.
Du Cantou, cinquième étage.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour, madame. Merci. Alors, écoutez, moi, le mouvement de grève qui est ici, moi, j'étais absolument pour le personnel. J'ai d'ailleurs été une des premières à signer la pétition pour leurs conditions de travail et leur salaire. Mais je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est ignoble. Tout simplement ignoble. Laisser des personnes âgées dans cet état. À l'étage, il y en a 3 qui sont tombées. Il n'y a pas assez de surveillance, 3 tombées. On en a vu des choses, hein, pendant que les grévistes étaient en bas. Ah ben, c'est-à-dire des gens qui étaient assis n'importe comment, qui n'étaient pas changés. C'est les personnes extérieures qui n'avaient rien à faire. Par exemple, les infirmières qui montaient. Il y a certains grévistes qui sont montés 1 heure ou 2 ou 3. Parce que vraiment, bon, c'est vrai qu'ils avaient une certaine conscience professionnelle. Ils sont quand même montés. Et c'est vrai que les personnes qui sont ici, en temps normal, sont vraiment des gens dévoués, qualifiés. Et sur qui je peux compter. On peut compter, les familles, on peut compter sur ces gens. Mais malheureusement, ils se sont fait entraîner dans des choses vraiment impensables. Impensable, c'est impensable. C'est vrai que vous avez ici 12 personnes Alzheimer. Quand l'aide-soignante se retrouve toute seule, mais c'est très lourd. C'est très lourd pour les gens qui travaillent ici, c'est très lourd. Malgré tout, le travail était fait. Le travail a toujours été fait. Mais c'est vraiment, je trouve que ça dégénère là, vraiment. Vraiment, ça dégénère. Et c'est même malhonnête ce qui se passe.
Pourquoi malhonnête ?
Malhonnête, parce qu'il y a certaines choses qui sont dites et qui sont... C'est malhonnête. C'est des choses qui ne sont pas vraies. C'est mensonger. Voilà.
Alors, quelles sont ces choses qui sont graves, pas vraies, mensongères ? En fait, il a été question d'une maltraitance particulièrement violente. Il y aurait eu des viols de patients sur des patients. Voilà, il y a des témoignages dans cette maison de certains soignants qui affirment que ces choses-là se sont passées, qui ont produit des témoignages. Et évidemment, ces maltraitances pour ces personnels sont le fait de personnels de postes insuffisants, bien évidemment. Alors voilà, des témoignages des personnels.
Donc moi je suis ASH au 5e étage, hein, Cantou. C'est agent hospitalier, agent de service hospitalier. Et je suis au Cantou, donc ils sont 12 résidents au 5e, sachant qu'il n'y a qu'une aide-soignante et qu'une ASH toute la journée. Le rapport avec les résidents au Cantou, c'est vachement dur parce qu'on se fait souvent taper dessus. Et on n'est que deux, et la plupart du temps, donc la soignante c'est une femme, donc quand on est deux et qu'ils ont tous en même temps, ils commencent à faire une crise, c'est impossible de les gérer. Et quand ça tombe le week-end et qu'il n'y a pas l'infirmière cadre et qu'il y a juste deux infirmières sur tout l'établissement, c'est ingérable.
Et vous devez faire quoi ?
On est obligé de fermer les portes à clé pour pas qu'ils puissent rentrer dans les chambres et tout casser, parce qu'ils cassent les rideaux, ils se tapent dessus et courir derrière eux pour le repas et tout, donc...
Et on n'est pas là toute la journée en tant qu'ASH. On a certaines choses à faire dans la journée, donc on ne peut pas rester forcément à l'étage avec les soignants. Donc bien souvent, ils se retrouvent tout seuls. Et gérer 12 personnes en étant seuls, bah, c'est vraiment pas évident. Et c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui.
Vous vous appelez comment ?
Malvina. Je travaille dans un Cantou, justement, au 5e étage. J'ai été témoin d'une scène, en fait, en voulant... faire le ménage dans une chambre, je suis rentrée et il y avait un monsieur qui était en train de forcer une résidente à lui faire une fellation. Je suis intervenue, mais bon, c'était trop tard. La résidente était complètement nue sur le lit. Le monsieur lui tenait la tête et c'était dans un Cantou et c'est un monsieur qui a des déficiences psychologiques et madame aussi. Donc ils savent pas vraiment ce qu'ils font, mais en attendant, quand il lui tenait la tête et qu'il la forçait à lui faire ce genre de choses, c'était la chambre du monsieur. Il a dû certainement l'entraîner dans sa chambre à lui, parce qu'elle est plusieurs chambres après, quoi. Enfin, elle n'est pas à côté de lui, donc il ne partage pas du tout la même chambre. Donc, ça veut dire qu'elle a certainement été emmenée dans sa chambre pour qu'il se passe après quelque chose derrière. C'était le matin, un week-end, un samedi matin. Et les soignants étaient occupés à faire les toilettes, à laver les résidents, etc. Donc ils ne pouvaient pas tout gérer. Et quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu ça, j'en ai tout de suite alerté mes collègues. Mais par la suite...
Ce jour-là, j'étais là. Donc oui. Je suis aide-soignant, donc j'étais à l'étage. Donc elle m'en a parlé, l'ASH. Après, nous, on a fait remonter ça en direction. Et le pire, on nous a dit, avertissez pas, on va stopper l'affaire, on n'avertit pas la famille. Voilà ce qu'on m'a répondu. On stoppe l'affaire, on se tait. Donc voilà, ça, là, je trouve ça choquant.
Alors évidemment, du côté de la direction, on voit là, dans ses propos, une dérive malsaine du conflit social. La direction affirme que les patients concernés, dans le cadre de l'évolution naturelle de leur maladie, peuvent connaître des épisodes de désinhibition et provoquer la levée d'un certain nombre de verrous. C'est ainsi que s'exprime le directeur médical du groupe Corian. Voici les propos de Madame Solerti, qui est la directrice de la saison dorée.
Et il y a eu des histoires aussi, des histoires de viol. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Alors, on trouve ces propos très malveillants. Moi, je suis scandalisée qu'on puisse utiliser, si vous voulez, de telles accusations lors d'un conflit social. Vraiment, je trouve ça scandaleux. Alors, je vais vous dire, ce sont des problèmes de comportement entre résidents qui se produisent entre résidents en unité protégée, qui sont clairement identifiés, qui sont connus, pour lesquels il y a une procédure qui est suivie, c'est-à-dire quand ça se produit, le médecin coordonnateur et l'infirmière coordinatrice informent les familles. On a des échanges avec les tutelles. Donc, je veux dire, on est très transparent. Moi, je trouve que ce sont des propos malveillants parce que c'est une réalité de comportements entre résidents qui ont des troubles cognitifs, clairement. Clairement. Donc, on est transparent là-dessus, il n'y a aucun problème. Et le terme de maltraitance, c'est scandaleux qu'il puisse être employé, quoi, vraiment, clairement. On est très choqués que ça se passe pendant qu'il y a un conflit social, bon, voilà.
Mais du coup, la personne avec qui il y a eu des problèmes n'est plus dans la maison de retraite, a quitté la maison de retraite?
Alors là, la question que vous me posez est couverte par le secret médical, donc vous comprendrez qu'au bout d'un moment, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Clairement.
Dans sa méga maison glauque, entassé parmi les colocs, il se sent fade, il se sent glauque. Ainsi s'achève une époque, finir ses heures dans ses locaux, qui ne sont rien de plus qu'un dépôt. Ça sent la pisse, la soupe, le chaud et son voisin piolé brelot. Il dit souvent à ses matons qu'il serait mieux traité en prison, mais elle s'en cogne et le laisse condre, ce qui tapit ses caleçons longs. Se dit un peu orphelin, mais à l'autre bout du chemin, à quoi bon tous ces lendemains, et la famille jamais ne vient. Alors il est là et attend, quand pour lui sera le moment, sa nuit tard comme, et il attend, c'est son cimetière des éléphants. Papy ne fait plus de résistance, et même plutôt la décadence, il est seul pour sa dernière danse. Papy ne fait plus de résistance, et même plutôt la décadence, dans sa grande maison de vacances.
Sur la grève qu'il y a ici. La grève.
D'accord. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, moi. Je
ne
sais pas du tout ce qu'il faut faire.
Mais tu peux rien faire.
J'ai pas de faire. J'ai fait des fermes, mais il n'y avait rien du tout.
T'es en vacances.
J'étais en vacances, mais il n'y avait rien du tout à faire. Il n'y avait rien du tout à faire pour mes vacances. Faites-les partir les autres. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je ne peux rien faire avec mes mains. Mes mains, ça fait rien avec mes mains, j'ai mal aux mains.
Vous en pensez quoi de la grève qu'il y a ici?
Mon mari est parti pour Paris et il m'a amené là. Pas mal.
Hop, allez-y, non, allez-y. Ah, attendez,
je vais y arriver.
Comme ça, non?
Je sais pas.
Comme ça, ah, regardez, hop. Attention, fauteuil roulant.
Ah. Aidez-moi à sortir. Aidez-moi à sortir, madame. Aidez-moi à sortir.
C'est votre maman, vous voulez voir?
Oui.
Elle est ici depuis combien de temps?
Ça fait 4 ans. Tout est bien géré. Bon, non, on voit que le bon côté, hein. On ne voit pas le reste quand on n'est pas là. Donc, je ne peux pas vous dire là, cette semaine, ce qui s'est passé, rien du tout.
Vous avez demandé un peu ce qui s'était passé?
Mais j'ai demandé à l'hôtesse où ça en était, ce qui... j'ai pas de réponse. Elle me dit ça suit son cours, les soins sont faits, donc c'est tout.
Et vous, vous venez souvent pour votre maman?
Je viens une fois par semaine. Donc je suis venue mardi, donc ils étaient tous là à faire grève. Et aujourd'hui, je vois que c'est des remplaçants, donc je pense que la grève continue, quoi. On décide pas toujours ce qu'on veut, hein, quand on place les gens comme ça. On place un peu les gens comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on en a envie, mais bon, il arrive un moment où... Je crois qu'on n'a pas d'autre solution si on veut un petit peu arriver à tout gérer, quoi.
Parce que ça... Il faut faire la clé.
Parce que ça empiète vraiment sur la vie de famille donc, après.
Qu'est-ce
hein,
qu'il suivant. Faut faire la plaie, là.
Quoi donc?
Là-dessus, là.
Mais il n'y a rien, là.
Je regarde les cerises, il y a trois cerises.
Ah, il y a trois cerises. Bon, on va les laisser, les cerises. On regardera plus tard, quand elles seront mûres. Ben, nous, on arrive à s'en sortir. Je pense qu'il y a des gens qui font appel aux aides. Bon, il ne faudrait pas que ce soit plus cher, parce que je crois qu'il arrive un moment, le budget, ça s'écroule, hein, au bout d'un moment. Hein. Nous, ça, ce qu'elle gagne, et bon, ça va qu'elle a des choses à côté, mais sinon, on ne pourrait pas. Moi, je suis à la retraite. Mais moi, je sais qu'avec ma retraite, je suis loin de rentrer dans une maison. Ce ne serait pas possible. Nous, à notre époque, ce n'est pas possible. Bah, ceux qui ne sont pas en GIR, qui ne sont pas dépendants, je crois que c'est 2005, 2006. Vous voyez, ça fait des grosses sommes, quoi. Le gouvernement dit qu'il va faire des choses, mais... On ne voit pas grand-chose arriver. Et je vous dis, moi, je connais des gens qui sont là, qui sont obligés d'avoir des aides, sinon ils ne pourraient pas payer. C'est comme ça.
Au revoir, au revoir.
Alors le gouvernement, justement, eh bien le gouvernement trouve que, globalement, les efforts sont considérables. La médicalisation est dynamique. C'est le point de vue de Nora Béra, qui est secrétaire d'État chargée des aînés.
Allô ?
Oui, bonjour, Nora Béra ?
Oui.
Bonjour. Donc, je voulais savoir un petit peu où en était à la fois le plan solidarité grand âge qui date de 2006, qui prévoyait un soignant pour un résident, et le plan Alzheimer. Où en sont tous ces plans
Globalement, il y a eu des efforts considérables qui ont été mobilisés pour mieux accompagner les personnes âgées. Donc, le plan solidarité grand âge, entre 2003 et 2010, on est passé de 3 milliards à 8 milliards d'euros. Pour 2011, alors que les déficits sont énormes et que on est à l'heure des restrictions budgétaires, le secteur des personnes âgées bénéficie pour 2011 d'une progression substantielle puisqu'on progresse de 4,4% avec un montant supplémentaire de 412 millions d'euros. Alors s'agissant du plan solidarité grand âge, on est à 91% de sa réalisation.
D'accord, mais un soignant pour un résident, ça, c'est pas appliqué.
Non, on n'en est pas à un soignant pour un résident. Aujourd'hui, les budgets qui sont alloués permettent de faire fonctionner les établissements.
Mais néanmoins, là, en l'occurrence, il y a un manque criant de personnel. Enfin, un soignant.
La saison dorée n'est pas du tout. Qui n'est pas la référence, ce n'est pas une généralité. La saison dorée est un cas particulier où, en effet, il y a un besoin en soins qui s'avère conduire à des recrutements supplémentaires. Aujourd'hui, 117 personnels soignants pour les 108 résidents. Avec les budgets que je vous ai évoqués tout à l'heure, on finance l'ouverture de nouvelles places, mais aussi on médicalise. C'est la médicalisation qui est dynamique dans notre pays. Sur 9 établissements sur 10, nous voyons une progression de 30% des budgets. Et là, pour 2011, on a encore 412 millions d'euros supplémentaires par rapport au budget 2010. Donc, on a une progression qui est dynamique et qui est réelle. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà, progression, dynamique et enfin, bilan globalement positif du côté du gouvernement. Alors, quelle réflexion y a-t-il entre le privé, le public? La seule solution serait ces maisons de retraite, ces mouroirs climatisés qu'on essaierait de rendre de plus en plus propres, de plus en plus aseptisés. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour vieillir dans des sociétés comme les nôtres? Bien sûr que si. Vous vous souvenez des Baba Yaga, par exemple, ces dames de Montreuil, je crois, qui s'organisent tout à fait autrement. Il y a l'histoire des soins, de rester à domicile, qui est une solution qui est envisagée. Mais il y a beaucoup d'autres solutions, mais qui ne peuvent pas être envisagées dans le cadre de cet esprit de rentabilité et de cette, on va dire, dictature des actionnaires. Il y a beaucoup d'autres solutions, j'en connais pour ma part, en Suède par exemple, ou en Allemagne, on avait vu ça dans les régions de l'ex-RDA, d'autres façons de vivre le grand âge, en intégrant, réintégrant les personnes âgées, voire même dépendantes avec le reste de la société, c'est-à-dire en finir avec cet apartheid générationnel qui cache derrière un mur ces corps vieillissants qu'on ne saurait voir. Voilà le point de vue de Patrick Pelou, que vous connaissez, qui est médecin urgentiste et syndicaliste.
Alors moi je suis Patrick Pelou, médecin urgentiste et syndicaliste.
Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux? Parce qu'aujourd'hui, quand on visite une maison de retraite, même une maison de retraite assez chic et chère, on se rend compte que les personnes âgées, bah, quand on est un peu vieux et un peu dément, on est enfermé dans une unité sécurisée, comme un criminel, avec des fous, des séniles, des grabataires, hop, tout le monde ensemble, on ferme la porte et cachez-moi ces vieux, quoi. Est-ce que c'est ce qui nous attend tous?
À l'heure actuelle, c'est clair que c'est ce qui nous attend. Mais vous savez, si vous prenez pas que les vieux et que vous commencez à réfléchir de la place des personnes handicapées en France, c'est un calvaire. Bon. Donc on a un problème qui est un petit peu semblable à celui que la psychiatrie avait analysé dans les années 70, en disant on va en finir avec les asiles d'aliénés, où on va enfermer tout le monde et on les laisse... Bon, donc en fait, on en est là. La psychiatrie a réussi à réinsérer le fou. Il faut réinsérer le vieux. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple, à mon avis, très simple et très bête. L'une des épreuves neurologiquement les plus complexes, c'est de conduire une voiture. Or, on supprime progressivement le commerce de proximité. La boulangerie, le petit épicier, le tabac. Ce qui fait que les personnes âgées se retrouvent seules. Même dans les grandes villes, vous en avez qui se retrouvent dans un véritable désert. Donc, nous avons en effet une pente absolument abjecte à l'heure actuelle, qui est de dire finalement, vous êtes vieux, vous irez dans la maison de retraite. Et vous avez déjà des pensées, notamment chez des gériatres ou dans des pays comme le Danemark, où ils disent non, les maisons de retraite, c'est pas du tout. Il faut remettre la personne âgée et la personne handicapée plus généralement à l'intérieur de la ville. Ça s'appelle la mixité sociale. Ça s'appelle être moins con, tout simplement. Il y a des alternatives où d'un coup... Les personnes âgées peuvent être regroupées par des petites unités où on crée des quartiers, mais qui ne sont pas des ghettos. Ce ne sont pas des ghettos. C'est vers cela qu'il faut tendre. Donc, c'est comment est-ce... Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu une telle espérance de vie. L'enjeu actuel, c'est de savoir comment on va civiliser ces espaces de vie. C'est éminemment politique.
Mais est-ce qu'on va vers ça en France ? Des modèles comme on trouve en Suède, au Danemark?
Non, pour l'instant, non. Les lobbies sont très forts à l'Assemblée nationale, tous les consortiums de maisons de retraite continuent à fond. C'est un petit peu comme dans l'hôtellerie, où en fait l'hôtel de la Poste, l'hôtel de la Gare, ils sont quasiment repris par des multinationales, ou par c'est exactement pareil. Et il y a des grands consortiums qui ont mis la main depuis 2003, en gros, hein. Sur, ils appellent ça l'or gris d'ailleurs dans leur langage, sur les personnes âgées, parce que justement, comme nous avons un système de protection sociale et de retraite qui est quasiment garanti en fait par l'État, la nation et le peuple à travers la sécurité sociale, Eh ben, ils savent que les dividendes qu'ils vont avoir vont pouvoir repartir dans les fonds de pension étrangers. Donc en fait, on est progressivement en train de plumer la France. C'est avec des magnifiques pompes à fric, hein, c'est vachement bien fait. Hein, si vous prenez le groupe Korian, ils ont pris à leur tête Madame Van der Berg, ancienne directrice de l'assistance publique hôpitaux de Paris, le plus grand groupe d'hôpitaux publics en Europe. Et elle s'est barrée au groupe Korian où elle fait du privé lucratif sans problème. Mais elle est partie aussi avec un adjoint qui s'appelle le docteur de Normandie, qui s'occupait de la mission handicap. Donc ces gens-là partent pas les mains vides, ils partent avec tout leur réseau. C'est pas qu'ils font du mauvais travail, c'est que d'un coup, on ne donne pas les moyens à l'hôpital public ou à des structures d'EHPAD publics de continuer à travailler. Et en même temps, ces consortiums ont de magnifiques financiers. Ils savent aller toquer à la porte des conseils régionaux, généraux, pour trouver des subventions, pour payer leur personnel. Voilà, il y a une privatisation de tout un système et on est en train de piller à large à manu l'argent de la solidarité nationale, quoi.
Les idoles font partie de la nouvelle vague qui soulève des montagnes. Ce n'est pas une blague, c'est une rigolade. Les gens les appellent les idoles des jeunes. Il en est beaucoup qui les envient, mais eux prétendent que dans la vie ils s'ennuient.
Ils s'ennuient.
Ils cherchent partout une âme en peine,
mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps les entraîne. Ils ne font que passer dans la nuit. Le filant tout seul de ville en ville, ils ne sont que des pierres qui roulent, roulent, roulent toujours.
Ils ont la fortune et plus, et leur nom partout dans les rues. Pourtant, ils cherchent simplement l'amour.
Pauvres chéris, les filles, ça les déboussole. Elles pleurent sur leurs idoles. Oh, elles en sont malades. Oh, oh, oh,
oh. Voilà les sœurs Rosio qu'on a retrouvées, que Franck a retrouvées, et qui faisaient l'admiration de Paul Grimaud et de Jacques Prévert. Mais revenons à cette maison de retraite et comment tout ça se l'est fini. Cette grève très dure, difficile. Voici l'épilogue.
Bonjour, Ada ?
Oui, oui, c'est moi, c'est Ada.
Bon, alors, où en est la grève ? Vous avez repris ?
Alors, on a bien repris, oui. Quelque part, on continue parce que, bon, on a décidé de faire la grève autrement. C'est-à-dire appliquer ce qu'on devrait appliquer normalement et faire notre travail en temps voulu. On leur a dit. On leur a dit face à face en négociation. Avant de finir, on a dit, écoutez, puisque vous nous avez formés pour faire le travail humanitude, c'est-à-dire être plus humain, prendre en charge le résident correctement et ne pas bâcler. Donc, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. On n'a pas à travailler, entre guillemets, comme des esclaves, et puis en plus, à maltraiter les résidents. Parce qu'ils veulent qu'on fasse du travail de qualité, et bien on fera le travail de qualité. Mais si on n'a pas le temps, et bien on n'aura pas le temps. Ça va décaler les repas, ça va décaler tout le reste. Donc ils mourront pas faim, mais ils auront leur repas à une heure au lieu de midi. Et ça, ça va désorganiser un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Et peut-être que là, ils vont peut-être se poser la question, oui, on va rajouter quelqu'un pour pouvoir aider. C'est comme ça, c'est la politique de Korian. Voilà, ils créent pas de poste. Eux, ils créent pas de poste au niveau soignant. C'est leur politique. On prend l'argent de l'État pour faire tourner la maison. Et puis voilà, c'est l'État qui paye. Je vais vous passer mon collègue, il vous en dira plus. Voilà.
D'accord.
Allô ? Moi, je suis Rémi Chartin. Je suis délégué du personnel à la Seine-Saint-Honoré.
Alors, pourquoi vous avez décidé d'arrêter la grève ?
Parce que on est coincé un peu au niveau de l'argent, donc c'est pour ça qu'on a. Et puis parce qu'on s'est trouvé devant un mur, parce qu'en fait, on a eu une période de négociations qui ont été très 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 dures. Ils nous payent pas nos jours de grève, donc nous on avait demandé à ce que soit payé, donc ils n'ont pas voulu. Donc ils vont être étalés en fait, ils vont nous enlever 50% du salaire ce mois-ci, 50% du salaire le mois d'après. Enfin pendant 3 mois ils nous enlèvent 50% du salaire, donc on va se retrouver avec des tout petits salaires. On va se retrouver avec 500 ou 600 euros par mois, pendant au moins 3 mois. Donc c'était soit on acceptait ça, soit les salariés se retrouvaient avec plus rien du tout à la fin du mois, parce que je sais pas si vous imaginez, 21 jours d'absence sur un mois, les salariés elles se retrouvaient avec 150 euros à la fin du mois. Voilà, bon, en même temps on assume, hein, parce que on l'a choisi, mais c'est vrai que eux ils n'ont pas mis de bonne volonté pour quoi que ce soit. Donc eux leur prétexte c'est qu'ils n'ont pas d'argent à sortir parce que ils partent du principe que les postes soignants doivent être financés par l'État, par l'ARS, et pas par eux. C'est l'entreprise privée, donc en fait, tout va dans les caisses des actionnaires et des dirigeants. Nous, en moyenne, on a 108 résidents, et les résidents donnent en moyenne entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Donc, vous faites le chiffre, c'est des millions qui rentrent toutes les années dans les caisses. Moi, ma directrice, en fin d'année, elle a une prime de 10 000 euros tout le temps. Madame Solerti, tous les cadres de santé sont toujours avec des primes de 10 000 euros en fin d'année.
Et vous, vos primes, c'est de combien?
Nous, on n'a pas de prime, il y a un nouvel accord qui vient d'être passé là, mais ce qu'il appelle la prime d'assiduité, moyenne 500 euros par salarié. Mais il ne faut pas être absent plus de 3 jours. Si vous êtes absent plus de 3 jours, vous perdez tout. Donc nous, par exemple, les gens qui ont fait en grève, là, c'est 80% des salariés, en fin d'année, on n'aura rien. Nous, on leur a dit, on a carrément eu les réponses, on leur a dit, mais ça vous dérange pas, madame, que, par exemple, ça pourrait être votre mère, qu'elle a une douche par semaine, voire 2 douches par semaine, parce qu'on ne peut pas autrement, ça vous dérange pas? Elle dit, mais c'est pas mon problème, moi, je suis pas là pour regarder ça. Ah voilà, on sent un mépris, mais enfin, on était en pleurs, nous, parce qu'on était désespérés, mais enfin, elle rigolait au nez, et puis on avait l'impression d'être en face de gens qui ne sont pas humains, en fait. Des gens qui, aucun humanisme, rien, enfin. Puis tout le temps la culpabilité, vous n'êtes pas des bons professionnels, vous n'avez pas d'éthique, vous valez rien, vous avez abandonné les résidents, enfin bon, on écoute ça, mais aucune pitié, mais vraiment, nous, on a. En même temps, ça nous a permis de voir un peu ce qui valait, l'offre à visage. Mais on a été un peu paralysés par le fait de comment ils se comportent. Donc voilà, on est un peu, on revient, mais un peu la boule au ventre, c'est ce qu'on a dit à la directrice. On dit, vous savez, ça c'est un avant-goût, parce que nous on n'est pas prêts de lâcher, parce qu'on a des dossiers, on a 2-3 dossiers sous la main, qui fait que je pense qu'on va aller au prud'homme. Et on s'est dit, on a perdu 3 semaines de salaire, ça fait rien, non, on lâche rien, on lâche rien.
Merci à tous et à toutes. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Samia, Ada, Rémi, aux salariés de la Saison Dorée, ainsi qu'à Agnès Solerti et au docteur Patrick Peloux, et puis aux investisseurs privés pour qui le créneau des résidences pour seniors est devenu l'un des plus rentables de ce début de siècle. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez lire les commentaires qui y sont déjà et qui sont particulièrement édifiants. Vous pouvez faire la même chose sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Romain Luquiens et Defar Guéride, Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebotte. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
La Fédération française de cardiologie nous parle du donocœur.
Les maladies cardiovasculaires, c'est 400 morts par jour en France.
Professeur Beaune.
C'est encore trop. Nous sommes inquiets. Nous savons que les maladies cardiovasculaires, après avoir régressé, vont augmenter dans notre pays. On compte aujourd'hui plusieurs millions de malades, mais heureusement, la recherche avance, on sauve des vies, on améliore les traitements.
Soutenons la Fédération française de cardiologie, fedecardio.com.
Heures sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse, j'y suis, n'oubliez pas. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Au
Aux États-Unis, Barack Obama s'exprimera dans 2 heures depuis la Maison-Blanche. Le président des États-Unis fait face au plus grave revers subi par les démocrates depuis 1994. Ils avaient alors perdu 52 sièges à la Chambre des représentants. Cette fois, on parle d'au moins 60. La Chambre des représentants devient donc républicaine. Au Sénat, en revanche, le parti du président conserve une courte majorité. Et John Boehner, le futur speaker républicain de la Chambre des représentants, annonce déjà la couleur. Il souhaite s'attaquer à la réforme du système de santé obtenue de haute lutte par Barack Obama. On s'en doutait, mais les autorités grecques le confirment. Les envois de colis piégés depuis Athènes n'ont aucun lien avec un groupe terroriste international organisé. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères grec. Les deux personnes arrêtées lundi à Athènes appartiendraient à la mouvance anarchiste locale. Les autorités grecques recherchent 5 hommes liés à un groupe d'obédience anarchiste appelé la conspiration des cellules de feu. Vendredi, à Bruxelles, des experts en matière de sécurité aérienne et d'explosifs se réuniront pour examiner les réponses à apporter justement à ces colis piégés en provenance de Grèce et du Yémen. Il s'agira par exemple de modifier les règles de sécurité actuellement en vigueur pour le transport de fret. Actuellement, chaque pays de l'Union prend ses propres mesures. La Grèce a suspendu pour 48 heures l'envoi de colis à l'étranger. L'Allemagne a interdit les vols de marchandises et de passagers en provenance du Yémen. D'autres pays de l'UE, comme la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ont seulement bloqué le fret aérien en provenance du Yémen. Et puis à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a annoncé la décision de renforcer le criblage des voyageurs qui arrivent en France par avion. Décision prise lors d'une réunion des responsables de la sécurité nationale qui s'est tenue ce matin à l'Élysée. Sakine est en parfaite santé à la prison de Tabriz en Iran et son dossier suit son cours. Déclaration de la justice iranienne après les rumeurs d'une exécution imminente de cette femme condamnée à mort par lapidation. L'Iran accuse les médias occidentaux d'instrumentaliser cette affaire comme un moyen de pression contre le pays. La Cour d'appel de Paris autorise la remise à la Cour pénale internationale du Rwanda d'un rebelle Hutu soupçonné de crimes de guerre en République démocratique du Congo en 2009. Ancien responsable des forces démocratiques de libération du Rwanda, Calixte Mbarushimana est installé en France depuis 2002 avec le statut de réfugié politique. Il est accusé par la CPI de meurtres, viols et tortures. Dans un rapport remis cet après-midi à Nicolas Sarkozy, le secrétaire d'État à la justice Jean-Marie Bockel propose 15 mesures pour la prévention de la délinquance juvénile. Le nombre de mineurs mis en cause dans des faits de délinquance a plus que doublé en une vingtaine d'années. Le rapport insiste sur la responsabilité parentale et revient sur l'idée très controversée d'un repérage précoce des troubles du comportement chez l'enfant dès 2-3 ans. Le SNPL, premier syndicat de pilotes, lève son préavis de grève qui courait de vendredi à lundi. Les personnels aériens ont obtenu gain de cause. Ils demandaient la modification d'un article de la loi de financement de la sécurité sociale, selon lequel tout avantage remis à un salarié ferait désormais l'objet de cotisations sociales, comme par exemple pour les personnels aériens, les billets d'avion à tarif réduit dont ils bénéficient.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec...
On monte les quelques escaliers.
Gwenaëlle Abolivier.
Ce mercredi, nous partons en Bourgogne, sur les traces de l'écrivain Colette.
Si je retrouvais soudainement mon véritable village natal, j'ai peur de ne plus l'aimer assez.
Émission spéciale en archives et en reportage.
C'est là qu'il faut chercher son passage à travers les ronces
pour la sauvegarde de sa maison natale. Source d'inspiration de toute son œuvre.
Partir avec.
Ce soir, à partir de 21h.
France Inter et le Théâtre des Bouffes du Nord présentent avec le Festival d'automne à Paris, du 9 novembre au 31 décembre, Une Flûte Enchantée, mise en scène par Peter Brook. Peter Brook nous propose une relecture de La Flûte Enchantée, dont la transcription musicale pour piano permet aux chanteurs-comédiens de délivrer toutes les nuances du langage mozartien. Retrouvez Une Flûte Enchantée dans les émissions de France Inter. La différence.
À 16h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Frédéric L'Odéon et le Carrefour de L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de L'Odéon.
Bonjour à tous. Dans 25 minutes, je recevrai deux membres du quatuor à cordes Ébène, Pierre Colombet, premier violon, Raphaël Merlin, violoncelliste, pour un nouveau disque qui vient de paraître chez Virgin Classics, quatuor Ébène Fiction, ou Fiction, je le dis comme ça à l'américaine, vous verrez pourquoi, vous entendrez pourquoi, tout à l'heure. Pour commencer, puisque nous sommes toujours dans l'année Chopin-Schumann, un concert qui se profile, concert de soutien à l'association L'Art à l'Hôpital et Résonance, ce sera le 7 novembre. C'est à la salle Cortot, la fameuse école normale de musique où Pablo Casals, Alfred Cortot et Jacques Thibault ont enseigné. Donc un concert exceptionnel, piano et chant. Elisabeth Sombard sera au piano. La voici tout de suite dans la fameuse étude révolutionnaire de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, 12e étude dite révolutionnaire par Elisabeth Sombard qui jouera avec une cantatrice très réputée, Akiko Nakajima. Ce sera à la salle Cortot dimanche qui vient, le 7 novembre, à 17h30 pour l'art à l'hôpital, l'association L'Art à l'Hôpital. C'est vrai qu'à l'hôpital, c'est bien aussi d'avoir des occupations de l'esprit, ça permet de guérir souvent. Donc un programme Chopin avec des œuvres pour piano, puis aussi des mélodies beaucoup moins connues, chant polonais par exemple, puis de Chopin et Madame Viardot, 16 ans, ou bien Plainte d'amour, Aime-moi, c'est tout à fait explicite, et puis de Robert Schumann, Le Carnaval opus 9, et aussi des leaders. Salle Cortot à Paris, c'est 78 rue Cardinet, dans le 17e métro, je sais pas, Malesherbes par exemple, moi je descends par là. Et ce soir, miracle à la télévision, c'est le service public qui le permet, Les Noces de Figaro de Mozart, à partir de 20h35, à ne pas rater, nous recevons le chef d'orchestre, d'ailleurs demain, Philippe Jordan, ou Jordan, comme on dit, puisqu'il est dans son pays, puisqu'il est suisse-allemand. Et donc ce chef-d'œuvre de Mozart Ça sera vraiment un grand moment de réjouissance ce soir à la télévision. Bien sûr que les sondages seront faibles demain matin, mais on s'en moque après tout. Il y a des choses concurrentes, mais ça c'est un chef-d'œuvre de l'esprit et impérissable, puisque des siècles après, eh bien, on écoute toujours les Noces de Figaro, et là on pourra même les voir. Alors, quelques scènes très explicites dans le premier acte. Il y a Figaro qui est en train de compter 5, 10, 20, 30, 36, 43. Il est en train de mesurer la chambre que le comte va lui octroyer pour son mariage, et Suzanne est à côté de lui, elle est contente, et elle dit, ben voilà, je suis ravie, on dirait qu'on l'a fait pour moi, ce lit, mais regarde, cher Figaro, regarde aussi mon chapeau, oui, oui, ma belle, ils se réjouissent, mais elle tique à un moment donné, parce que, il regarde, voilà, tu vois, ce lit que le comte nous destine, il sera bien ici. Elle dit, dans cette chambre, oui, oui, monseigneur nous la prête généreusement, nous la cède même, mais j'en veux pas, mais pour quelle raison? Ben, parce que, voilà, il est tout près, ce lit, il est tout près de sa chambre à lui. En fait, on sait bien, nous, on le sait maintenant, que le comte voudrait bien éventuellement pratiquer ce qu'on appelle le droit de cuissage, c'est-à-dire avoir sa servante juste à côté de lui, à côté de sa chambre à lui. Ce qui, évidemment, ne va pas plaire du tout quand il va le comprendre enfin à Figaro, et ça ne plaît déjà pas à Suzanne. Voici ce duo du début des Noces de Figaro de Mozart.